Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières. C'est le titre de l'ouvrage d'Alexandra Lapierre, et Christelle Mouchard. Christelle Mouchard est l'invitée de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je ne sais plus qui l'autre jour me reprochait de ne pas recevoir assez de femmes dans cette émission. Eh bien non seulement notre invitée est une femme aujourd'hui, mais avec elle, c'est de grandes aventurières, de femmes au destin extraordinaire que nous allons parler. Et moi je vais commencer par vous faire découvrir une de ces grandes figures de l'aventure féminine, La Maillard.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Raphaël qui souhaite connaître l'origine des jeux romains, les courses de chars et les combats de gladiateurs.
Alors c'est tout à fait autre chose, on va dire. Mais bon, deux atmosphères pour une seule émission. Pour le moment, nous allons suivre Ella sur les chemins du vaste monde.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand.
Ella Maillard est cette femme qui, au beau milieu des années 1930, partie de Shanghai, c'est-à-dire vraiment tout à fait à l'est, dans l'Orient de la Chine, va rejoindre l'Inde par la terre. C'est une expédition tout à fait extraordinaire pour une femme qui a 32 ans, je vais y venir. Quand on parle de grandes aventures dans les années 30, il est rare qu'on ne cite Paul Morand. Eh bien, voilà ce que Paul Morand nous disait d'Ella Maillard, la description qu'il nous en donne. C'est une femme bottée de mouton, gantée de mouf, le teint cuit par l'altitude ou le vent du désert, qui explore des régions inaccessibles avec des Chinois, des Tibétains, des Russes, des Anglais, dont elle reprise les chaussettes, panse les plaies et avec lesquelles elle dort en pleine innocence sous les étoiles, disait-il. Et il nous la décrit avec ce visage solidement construit comme un palais de bonne époque, avec un nez droit, un menton conquérant, des pommettes bien sculptées, ses mains sont viriles, ses grands pieds sont ceux d'un coureur d'univers. Voilà la vision que Paul Morand peut-être a eue, et en tout cas donne à ses lecteurs, de cette Ella Maillard, qui est une genevoise, elle est suisse, elle a 31 ans en 1934, puisqu'elle est née le 20 février 1903 à Genève. Elle était la fille d'un fourreur qui avait beaucoup de clients un peu extraordinaires, forcément, et des gens qui venaient de tous les horizons. Et son père a su très tôt la faire rêver à d'autres horizons. Il employait des expressions, il parlait de Nijni Novgorod, de Vladivostok, de Klondike, etc. Tout ça, bien entendu, était fascinant pour la petite fille qui s'est mise à rêver et qui, avec son amie de l'époque, Miette, c'était pas son vrai nom, elle s'appelait Hermine au départ, mais avec Miette, elle rêvait notamment de prendre la mer. Je n'avais qu'une ambition, devenir un vrai bourlingueur des mers, dit-elle, cette petite fille. C'est quand même incroyable. C'est pas étonnant, hein, si l'on est évidemment dans cette période de l'après-première guerre mondiale, dans cette période de la mode à la garçonne, dans cette période du début du véritable féminisme et où non seulement les femmes font des choses extraordinaires, mais vous le voyez, même les petites filles se mettent à rêver de vastes horizons. Pour Christelle Mouchard, qui est notre auteure aujourd'hui et qui a écrit avec Alexandra Lapierre cet ouvrage « Elles ont conquis le monde », elle est déjà, nous dit-elle, un vétéran de l'aventure. Après s'être essayée au bateau en compagnie de son amie Miette, puis d'un équipage de 4 filles et enfin en solitaire, vous voyez qu'elle a quand même une petite expérience déjà, pour les régates olympiques de 1924, elle a découvert le plaisir de marcher à la rencontre des peuples des steppes. Et la Maillard a besoin, évidemment, qu'on la soutienne. Il lui faut un peu d'argent pour monter ce genre d'expédition. C'est très fréquent à l'époque, hein. Je vous renvoie à Tintin, tout simplement. Il faut un journal qui vous soutienne et qui vous paye de quoi vous aventurer. Son problème, elle, c'est qu'elle n'aime pas écrire. Mais peu importe, il faut bien une explication, il faut bien une justification. Alors elle dit qu'elle veut aller visiter la Mandchourie. C'est qu'à l'époque, la Mandchourie est occupée par les Japonais depuis très peu de temps. Un Japon où l'on voit monter les mêmes totalitarismes, le même totalitarisme que dans un certain nombre de pays d'Europe, en Italie fasciste, en Allemagne nazie, etc. Bien entendu, donc c'est tout à fait à la mode, si je puis dire. Elle va voir différents rédacteurs en chef et finalement, c'est le rédacteur-chef du Petit Parisien, Élie Joseph Joseph Bois, qui lui dit écoutez, pourquoi pas. Alors elle dit, mais je reviendrai par l'Asie centrale pour rejoindre l'itinéraire de mon précédent voyage. Il est convaincu. Il a lu dans son regard cette espèce d'étincelle qui fait qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un de véritablement déterminé. Il lui dit d'ailleurs, il lui pose une seule question. On s'imagine bien, au milieu des années 30, il doit fumer ce monsieur, on le voyait. Il lui dit, combien vous faut-il ? Ça y est, c'est gagné. C'est le petit Parisien qui désormais va parrainer, si je puis dire, Ella Maillard, et va l'envoyer en Mandchourie. À l'été 1934, c'est donc le départ sur un navire des messageries maritimes. Hein, bien entendu, vous savez qu'on ne gagne pas Shanghai aussi facilement qu'aujourd'hui. Ce sont des jours et des jours, pour même pas dire même des semaines, d'une traversée d'ailleurs assez éprouvante, puisqu'elle est malade en bateau, Ella. Elle arrive à Shanghai et c'est pour aussitôt reprendre un autre paquebot direction Dairen, qui est le grand port de l'état du Manchukuo. Elle fait tout de suite ses premières interviews. Elle va voir des hommes d'affaires, des consuls, des gens qui connaissent la situation, un certain nombre de réfugiés russes. Il y a des Chinois, bien entendu, sur place. Et tous ont devant l'évolution de cette situation en Mandchourie, ils ont tous le même sentiment d'une certaine impuissance, d'une certaine crainte aussi. Et on la dissuade de continuer. Écoutez, franchement, mademoiselle, ce ne serait pas raisonnable. Ah, c'est pas raisonnable, eh bien tant mieux, parce que si c'était raisonnable, croyez-moi, ça l'amuserait déjà beaucoup moins. La voilà maintenant dans un train de troisième classe, enfin en tout cas dans une voiture de troisième classe, sur une ligne considérée comme stratégique. Alors elle va avoir des petits soucis, bien entendu, parce qu'on est dans une période difficile et dans une zone hautement sensible. Donc on la prend pour une espionne. Il y a même des soldats nippons qui vont la malmener. Et là, clac, elle gifle l'un d'eux. Ça a été une impulsion. Elle n'a pas réfléchi, elle l'a fait tout naturellement. Elle éclate de rire. Et les autres n'ont pas été habitués à ça, ils sont complètement décontenancés. C'est probablement cette réaction si spontanée et à la limite de l'incongruité qui finalement l'aura sauvée. Le chef de train, qui est un Russe, n'oubliez pas l'inimitié entre Russes et Japonais depuis 1905, bien entendu, même sans doute depuis bien plus longtemps que ça. Le chef de train lui dit, il faut porter plainte absolument, ce qu'elle va le faire à Harbin, dans la grande ville locale. Et en novembre 1934, elle se retrouve donc dans le bureau du chef de la police des chemins de fer, avec un écrivain britannique, envoyé spécial du Times, qui s'appelle Peter Fleming. Oh, elle le rencontre, elle le connaît, Peter Fleming, puisqu'elle l'avait croisé déjà dans un bar à Londres. Ils avaient parlé justement de l'Asie, de toutes ces aventures assez extraordinaires. Et au moment de se quitter, elle lui avait dit, je vous verrai probablement en Chine. Et lui, pour plaisanter, lui avait dit, mais oui, nous nous retrouverons là-bas. Eh bien oui, c'est exactement ce qui va se passer réellement. Alors, ce soir-là, ils ne font qu'échanger leurs adresses. Ella Maillard découvre la ville. Elle est éblouie par les maisons des mandarins. Elle visite ses cours cachées au détour de ruelles, ses jardins extraordinaires, bien entendu, les palais, etc. Elle rencontre un grand explorateur suédois, Sven Hedin, dont j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois ici même qu'il faudrait d'ailleurs que nous lui consacrions un jour une émission. Elle va rencontrer le grand philosophe Teilhard de Chardin, vous savez, le père Teilhard de Chardin, l'inventeur de la noosphère, vous savez, qui par ailleurs avait découvert l'homme de Pékin, faisait des travaux des travaux archéologiques considérables, et tout le monde lui conseille d'emprunter la piste au nord du Tibet. Et là, il y a une rencontre qui va, disons-le, changer sa route d'une part, et puis peut-être changer un peu son destin. C'est un couple de Russes, les Smigounov. Ils ont dû fuir le nord du Tibet pour se réfugier à Pékin en raison d'une révolte. Ils veulent gagner Tsaïdam. Elle se dit qu'elle pourrait les accompagner. Le Tsaïdam peut lui permettre de rejoindre le Xinjiang. Le Xinjiang, c'est vraiment une région, on appelle ça le Turkestan chinois, vous voyez, c'était une zone de route caravanière, enfin bon, on lui déconseille le Xinjiang. D'ailleurs les Smigounov lui disent, c'est un pays d'insoumis, c'est très dangereux, il y a des rebelles musulmans qui garrottent, qui décapitent, qui rasent, qui pillent les étrangers, même les Chinois qui refuseraient d'ailleurs de se convertir, mais c'est pas ce qui va la faire changer d'avis, je vous dis, plus c'est dangereux, plus c'est aventureux, et plus ça lui plaît. Thank you.
sur Europe 1, un extrait de Ma mère loi de Maurice Ravel par le London Symphonique. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'aventurière et la maillard.
Alors, on est un peu comme dans un de ces grands films d'aventure de la fin des années 30. Vous savez, avec ce beau noir et blanc bien contrasté, il faut imaginer la nouvelle visite qu'Ella va rendre à Peter. À Peter Fleming, elle lui demande de l'accompagner. Alors, qui est-il, ce Peter Fleming? Oh, alors lui, c'est un aventurier aguerri. Il a déjà publié un récit sur ses aventures au Brésil. Il s'est aventuré dans la Chine du Sud 2 ans auparavant. Il a épousé la célèbre actrice Celia Johnson. Oh, c'est un personnage, hein. Il faut l'imaginer râleur, passionné de littérature et de théâtre. Et lui, son but, c'est d'aller se rendre dans la mystérieuse Mongolie extérieure qui, à l'époque, est sous protectorat soviétique. Ella Maillard lui parle de son expédition. Il n'hésite pas vraiment, à mon avis, il avait sans doute fait son choix tout de suite, mais en tout cas, il finit par lui dire « oui ». Nous nous entendions bien, tout en affirmant qu'il aurait été préférable pour chacun d'être seul, écrira Fleming dans son ouvrage Courrier de Tartarie. Je n'avais jamais fait l'expérience d'une compagne de voyage, mais Kini est l'antithèse de ce spécimen inquiétant. J'aime bien ce joli petit surnom qu'il lui a donné. Alors ils vont se délester de tout ce qu'ils ont. Ils envoient leur vieux bagage en Europe. Qu'est-ce qu'elle garde, elle, dans sa malle? 3 sweaters, 3 caleçons de laine, quelques médicaments, mais quand je dis des médicaments, ce seront plutôt des médications naturelles de là-bas. Elle sera un peu l'infirmière du voyage pour Peter, pour les nomades qu'ils rencontreront. Elle a eu la très bonne idée de se munir d'une bouilloire, le plus précieux et le plus indispensable de tous nos bagages, écrira-t-elle. Et oui, il faut purifier l'eau qu'on peut boire. Elle se procure un Colt dans Pékin. Elle s'entraîne au tir sur des bouteilles vides dans la cour de la Légation de France. C'est toute une époque, hein. C'est vraiment tout un esprit, ça, forcément. Lui a ses bagages bourrés de boîtes à tabac pour sa pipe, un vaccin pour tous les deux. Le médecin leur pose des poux qui, au préalable, avaient été posés sur les jambes de vieillards malades. Vous voyez, c'est un vaccin naturel, on va dire, hein. C'est très chinois, ça, comme méthode. Kini prévient sa famille, elle leur écrira d'Inde, le temps que sa lettre arrive en Suisse. C'est-à-dire, il faut bien 6 mois. Si au bout d'un an, aucune lettre n'est arrivée à Genève, ben, au bout d'un an, on pourra commencer à s'inquiéter. Janvier 1935, c'est le moment du grand départ par le train de Han Keu. Il faudrait que je vous parle de ça aussi. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais allez, ce sera pour une autre fois. Un train construit par la France et dans des conditions tout à fait extraordinaires. Sur le quai de la gare, ils sont photographiés par un certain Bossard qui est un journaliste suisse. Elle proteste et il répond « Si vous disparaissez pour toujours, qui sait si je ne ferai pas fortune avec ces photos ?» Et elle écrit « Une vie nouvelle commence. Aucun de nous n'estimait nos chances d'aboutir à 1 sur 20 ». Dira Fleming de son côté. Alors, bien sûr, tout ça, ça nous paraît un peu ancien, et puis ce sont des mots dans des livres, mais il est très probable qu'en effet, ils aient eu une pleine conscience de l'immense danger qui les attendait sur ce chemin tellement semé d'embûches et d'inconnus. Ils sont accompagnés par nos épouses Smigounov, là toujours, avec leur bonnet de fourrure, sont des Russes, c'est pas pour rien. Dans le train, on demande aux passagers, il y a des panneaux, qui disent aux passagers, s'il vous plaît, prière de siffler dans les virages. Ça vous donne une idée de l'équipement quand même du train. Alors, le terminus de la ligne Lunghai, c'est Xi'an Fu. Et là, il faut prendre une espèce de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un véhicule, je dirais, hein, parce que c'est une sorte de camion ancestral, si vous voulez, qui leur permet de gagner la chauffe. Un voyage très difficile. Elle là, pendant les premiers 3 jours, elle va s'installer à côté du chauffeur, ce qui est une chance pour elle, même si à côté de ça, elle est obligée du coup de respirer les gaz brûlés du moteur. Et pendant toute la suite du voyage, elle sera sur le chargement. Voilà ce qu'elle raconte dans Oasis interdite. Nous sommes une vingtaine, cramponnés au sommet de nos bagages, accrochés par les mains, par les talons pour résister à la poussée de nos voisins, eux-mêmes sur le point de glisser, torturés par leurs crampes. J'ai adopté une tenue d'homme, il fait froid, la neige est toute fraîche, la mauvaise humeur règne. Et bientôt, nos deux aventuriers, c'est-à-dire Peter et Ella, vont se retrouver seuls puisque la police chinoise, entre-temps, a arrêté les Smigounov et a décidé de les expulser. Comment vont-ils poursuivre leur chemin, Ella Maillard et Peter Fleming? Eh bien, les voilà maintenant à dos de mulet. Je vous assure que je n'invente rien, c'est leur histoire qui est tout simplement extraordinaire. Ils vont arriver dans une ville antique à 2500 mètres d'altitude, la ville de Sining. Les hommes du gouverneur militaire vont les consigner un moment, on les colle en quarantaine si vous voulez. On leur donne leur visa à une condition, être escorté par un des hommes officiels, hein, des gens locaux. Alors ils acceptent bien entendu et ils se joignent à la caravane d'un prince qui doit retourner au Tsaïdam. Ils louent à ce moment-là 4 chameaux pour leur bagage, 2 valises, 4 caisses de provisions. Ils achètent des poneys. Et voilà, Ella écrit une dernière lettre à sa famille. À ce moment-là, on est sur l'ultime point possible, si je puis dire, le dernier relais existant. Nous allons nous joindre à la caravane d'un prince mongol et voyager avec lui pendant 17 jours, écrit-elle. Ensuite, nous ne savons pas. Nous savons, mais nous saurons encore un peu mieux dans quelques instants.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ella Maillard est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez le fabuleux voyage en Asie centrale d'une des plus étonnantes aventurières du XXe siècle.
Elle se fait, bien entendu, à cette vie extraordinaire. Il faut les imaginer maintenant, à dos de chameau, hein, dans cette espèce de caravane princière. Je connais déjà l'odeur des chameaux, leur haleine fétide quand ils ruminent. Je sais la halte au point d'eau, la collecte du crottin pour le feu et les joies que procure le thé bouillant, écrit Ella Maillard. Je n'ignore pas la recherche des bêtes égarées à la poursuite de leur nature, ni le silence des nuits où les yeux brûlent d'avoir trop regardé dans le vent. C'est difficile de trouver des choses plus dépaysantes, somme toute. Alors, ils vont la quitter, cette expédition, Ella et Peter. Ils la quittent à Zoom, qui est une oasis à 2 mois de route de Pékin. Et les voilà maintenant sans chameau, à dos de cheval. Ils vont rejoindre Taijinar et la résidence d'un russe, un homme, une espèce de bonhomme un peu étonnant, qui s'appelle Borodichin, que tout le monde appelle Boro. C'est un ami des Smigounov, justement. Donc, ils sont très bien reçus. Il faut imaginer dans sa yourte cet ancien commandant d'une troupe de Cosaques qui explique aux aventuriers qu'ils sont quand même mal barrés. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a qu'une route possible maintenant, c'est par le Tibet septentrional. À 5000 mètres d'altitude, avec des vallées désertes, faut même pas chercher un point d'eau, là ça n'existe pas. Ce sont des régions qui, jusqu'alors, ont été qualifiées par les atlas géographiques d'inexplorés. C'est devenu quasiment impossible, même on peut dire que c'est devenu impossible aujourd'hui de trouver des blancs sur une carte. Mais à l'époque, il y en a encore, de moins en moins, mais il y en a encore. Le brave Boro va leur louer ses 4 bêtes en proposant d'accompagner les 2 voyageurs. Il fait un petit bout de chemin avec eux, jusqu'à ce qu'ils croisent des bergers après 1 mois de route. Ce sont des bergers du Xinjiang. Drôle de rencontre parce que ces bergers ne sont d'ailleurs pas du type âne, ce ne sont pas des asiatiques, ils sont de type caucasien et elle écrit là que c'est pour elle un adieu au monde jaune. Le monde en tout cas tel qu'il se déploie sous ses yeux écarquillés. Comment dit-elle d'avoir trop regardé dans le vent? Le monde est bleu, bien entendu, avec un lac extraordinaire sous des montagnes enneigées, une gorge impressionnante. Les étapes sont très longues puisqu'il faut faire parfois jusqu'à 14 heures d'avancée, d'affilée, dans un froid qui peut être rude. Et puis alors, il faut se nourrir, bien entendu. Dans les hauteurs, ils ont de la neige, ça permet de faire cuire des pâtes chinoises grâce à, en faisant fondre de la neige, évidemment. Et puis sinon, il faut chasser. Alors, des antilopes, par exemple. Un jour, ils ont trouvé une antilope, ils l'ont tuée, ils se mettent à la faire cuire, etc. Tout ça, ça a l'air facile, raconter tranquillement, mais vous imaginez un peu le caractère héroïque de l'exploit. Sauf que dans l'antilope cuite, il y a des vers gros comme des noix, vous imaginez. Et donc ça les rebute. Et puis, petit à petit, ils s'y feront. Et ils finiront par manger de ces animaux pleins de parasites. quand ils croisent de temps en temps les locaux, on leur offre du lait caillé, des galettes d'avoine ou de maïs. Ça, c'est ce que les bergers qui les accompagnent ont l'habitude de manger. Et puis, un petit peu de riz parfois, de l'agneau ou encore de la graisse de brebis. Si jamais j'ai vécu un instant de bonheur sans mélange, nous dit Ella Maillard, c'est là, devant ces dons parfumés et savoureux de la nature, entourés de visages bienveillants. Ils avancent toujours à cheval et au bout de 5 mois de marche et de parcours très difficiles, ils rejoignent le désert du Taklamakan. On est là à 1500 mètres d'altitude. Alors, je vous parlais de froid et de vent cinglant. Maintenant, ce sont les chaleurs torrides de l'été, au point que le cheval d'Ella va mourir. Il faut imaginer les moustiques qui sortent de désert de sable mouvant, le Xinjiang dont la superficie est le double de celle de la France. Le Xinjiang est isolé du reste du monde par les plus hautes montagnes et le plus grand désert qui soit, reconnaît Ella Maillard. Et à leur arrivée dans une oasis de ce Xinjiang, ils se font interpeller par des soldats chinois. Il y a un consulat britannique. Ella et Peter sont retenus quelques heures. Enfin, ils seront relâchés. Et les voilà qui repartent pour leur Koh Tan, siège de rebelles musulmans, ancienne étape célèbre sur la route des grandes caravanes, une ville qui est devenue un peu le symbole de la révolte religieuse. On est là à 45 jours des Indes. Alors, ils peuvent pas s'empêcher de faire des interviews, de raconter ce qu'ils voient, parce que ce sont des reporters quand même. Et là, n'oublie pas la mission principale qui est la sienne. L'étape suivante, c'est l'une des plus émouvantes pour Ella, c'est la ville de Kashgar. Elle aperçoit les monts Tien Shan, ces monts célestes qu'elle a observés de l'autre côté dans les vallées perdues du Kyrgyzstan, et elle se sent chez elle. « Je n'avais jamais joui avec autant d'intensité des plaisirs nombreux qu'une maison peut contenir », écrira-t-elle. Il y avait le sommeil sans bataille contre les puces, l'eau chaude qui montait jusqu'au cou dans la baignoire, le choc des bouteilles sur le plateau quand on avait répondu « yes » à la question « have a drink ». Il y avait le luxe du café noir qui parfumait la somnolence inhérente d'un bon repas surtout. J'appréciais les tartines du matin dont je faisais disparaître le pain sous le beurre et le miel. Lorsqu'on voulait bouger un peu, on pouvait jouer au tennis, mais ni mon compagnon ni moi ne savions jouer. Le soir, on bavardait, et fait rare depuis notre départ, dans une langue familière à tous les interlocuteurs. C'est beau la grande aventure, c'est beau de se perdre dans les lointains hostiles, mais c'est très beau aussi de retrouver de temps en temps la civilisation. Bonjour Christelle Mouchard. Avec vous, nous allons suivre Ella Maillard jusqu'au terme de son fabuleux voyage et puis nous reviendrons sur les voyages d'un certain nombre d'autres aventurières dont vous avez peuplé votre ouvrage.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ella Maillard et les grandes aventurières sont au cœur de l'histoire. Votre invité, Franck Ferrand, l'éditrice et écrivain spécialisé dans l'aventure au féminin, Christelle Mouchard. Elle a dirigé l'ouvrage « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 », présenté par Alexandra Lapierre, réédité chez Art aux Poches.
Un siècle d'aventure au féminin, Christelle Mouchard. Alors, revenons peut-être avant de découvrir toutes ces aventurières, toutes plus étonnantes les unes que les autres. L'une des plus récentes, somme toute, puisqu'elle la Maillard, on est vraiment dans la fin de la période qui vous intéresse, hein, ce siècle qui va du milieu du 19e au milieu du 20e, nous l'avons laissé de retour à la civilisation, si je puis dire, mais c'est pas fini, parce qu'il va falloir reprendre le chemin du Cachemire par la voie millénaire du Pamir. Elle n'est pas au bout de ses aventures avec Peter Fleming.
Alors non, effectivement, mais ces aventures se terminent bien, mais à ceci près que les deux amis de circonstance se séparent.
Et voilà,
que
lui, il devient impossible hein, quand même, il faut
oui,
le dire.
Oui, de toute façon, alors c'était vraiment une amitié
si je puis dire,
improbable. Hein. C'est vraiment un cas unique, on veut dire, dans l'histoire des voyages, que cette cohabitation entre un homme et une femme qui n'étaient pas amants. Mmh. Et qui se sont néanmoins bien entendus
pendant une partie du trajet. À la fin, ça commençait à devenir
c'était
un peu pénible.
C'était une sorte de jeu entre eux, hein, un jeu très très britannique d'ailleurs, hein, d'humour, de dérision, de bon, ils s'envolent, mais ils s'aiment tout de même. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'au retour, ils ont écrit chacun leur livre. Donc, c'était vraiment deux aventures parallèles vécues ensemble.
C'est assez intéressant de confronter les deux points de vue parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, d'une certaine manière.
Non, voilà, non, c'est effectivement, et là, effectivement, on touche au sujet des femmes aventurières. Elles, oui. Les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. La sensibilité n'est pas les mêmes. N'est pas la même, évidemment.
Alors, avant de revenir à la façon dont Ella Maillard avoir envisagé l'aventure. Un mot peut-être sur ce Peter Fleming dont plusieurs auditeurs nous demandent s'il a un lien avec le célèbre Ian Fleming, l'auteur de 007 James Bond.
Tout à fait, c'est son frère. Hein, et comme Ian Fleming, d'ailleurs, tous les deux sont très liés au service secret britannique.
Oui, et ils sont les fils d'Alexander Fleming, l'inventeur de la pénicilline.
Voilà. Donc, mais c'est bon. Il faut noter quand même que la proximité de Peter Fleming avec les services secrets n'est pas neutre. Hein. Nous sommes dans les années 30 en Chine et ça n'est pas la seule fois dans ces années-là que les femmes aventurières seront au contact de
d'espions, disons-le,
d'espions,
d'agents,
agents d'influence, agents de renseignement. C'est un rôle qu'elles-mêmes n'ont pas toujours dédaigné.
Je me rappelle ma déception lorsque j'ai découvert, pour tout vous dire, c'était à l'occasion de l'affaire Dieu le veut, vous savez, la disparition de l'expédition Africa Raft au Zaïre, de découvrir qu'une grande partie de ces expéditions, de ces grands projets d'aventuriers sont en quelque sorte des couvertures pour des projets qui, eux, sont des projets de... pas toujours, hein, mais souvent des projets politiques ou de renseignement, en fait.
Mais il y a toujours les deux aspects.
Les deux aspects sont liés, on va dire.
Voilà, quand on insiste trop sur l'aspect information, influence, renseignement, on néglige la part d'extraordinaire et de découverte, d'émerveillement du voyageur et de la voyageuse.
Alors, quand vous nous dites que la sensibilité d'une femme n'est pas tout à fait la même pour appréhender l'aventure, quels sont les centres d'intérêt d'Ella Maillard? Au départ, elle est là pour le petit Parisien et son rôle est celui d'un reporter politique. En fait, c'est pas ce qui la passionne le plus.
Non, effectivement, c'est vrai que ce qu'il faut noter, ce sont les rencontres, en fait. C'est la valeur des rencontres. C'est les petits gestes de la rencontre, les regards et ce qu'on retire comme phrase, petite phrase qui reste dans la mémoire. Et Ella Maillard n'aimait pas écrire. Elle le disait souvent. Et curieusement, c'est certainement une de celles qui a le mieux écrit parce qu'elle avait cette sobriété et cette retenue qui faisait qu'elle saisissait un geste, un regard et qui fait que Oasis interdite est certainement un des plus beaux livres de voyage qui ait été écrit.
Évidemment, dans ce type de périple, lorsqu'on se jette à corps perdu dans l'aventure, on cherche peut-être d'abord à être directement en rapport avec soi-même, aux prises avec soi d'une certaine manière, on fuit tout le reste et l'on est dans une sorte d'événement permanent car chaque heure du jour, chaque étape du voyage vous réserve de véritables, de fortes surprises.
Alors c'était propre à Ella Maillard, hein. Tous les voyageurs et toutes les voyageuses n'ont pas été comme ça, mais elle effectivement avait une vie intérieure extrêmement approfondie et close. Et ce qui était curieux pour un reporter, d'ailleurs, effectivement un reporter politique, c'est que les événements politiques extérieurs lui étaient complètement indifférents.
C'est ça, la vérité.
Et la meilleure preuve, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle va se retirer complètement des événements et aller en Inde, où elle écrira ensuite un livre sur la vie qu'elle a eue avec sa chatte, symbole de la vie intérieure, justement. Et ça, c'est assez étonnant. Mais bon, je trouve que l'aventure de la plus belle vécue par Ella Maillard, je pense qu'il faut la citer, c'est La Voix Cruelle. C'est ce livre qu'elle a écrit qui s'appelle comme ça, La Voix Cruelle, qui est le récit d'un sauvetage raté, et c'est peut-être aussi parce qu'il est raté qu'il est aussi beau. C'est un compagnonnage avec une femme, cette fois, Anne-Marie Schwarzenbach, qui était à la fois écrivain, une très belle femme, qui était une femme un peu androgyne, absolument magnifique, et qui malheureusement était en perdition totale puisqu'elle se droguait à un point totalement suicidaire, et Ella Maillard, très volontariste, très forte en amitié, a voulu sauver cette amie et elle l'a emmenée en voyage, et toutes les deux sont parties alors en 39-40, vous imaginez, à un moment où le monde est au seuil d'un bouleversement incroyable. Voilà toutes ces deux filles qui partent avec une voiture décapotable et qui traversent une partie de l'Asie pour essayer de redonner le goût de vivre à Anne-Marie. Alors ça ne marche pas, malheureusement Anne-Marie est réellement suicidaire, donc elle ne fait que se droguer de plus en plus, et la Maillard se trouve dans la situation de tenir une main qui lui échappe de cette femme qui est en train de se noyer. Mais les textes qu'elle a retirés de ce voyage sont absolument magnifiques, c'est vraiment une très belle histoire, une très belle aventure de femme.
Ce voyage, en quelque sorte, aura été celui de toute sa vie. Hein. C'est ça qui est étonnant avec Ella Maillard. Ça ne finit jamais, presque. D'ailleurs, elle disait au retour de sa fameuse expédition là, vers le Xinjiang, elle dit « J'aurais aimé que le voyage durât toute ma vie ». Elle ajoutait « Je n'étais plus uniquement suissesse ou européenne, je me sentais liée au monde dans son ensemble et j'avais l'impression que je ne serais plus jamais tout à fait chez moi à Genève ». Elle ne pouvait plus rester à Genève.
Effectivement, elle ne pouvait plus. Elle ne connaissait pas les frontières. Elle ne connaissait pas les frontières entre les esprits. Et effectivement, c'est pas par hasard qu'elle a fini qu'elle a passé une partie de sa vie en Inde et après dans la montagne. Elle avait effectivement une conception, on va dire, jungienne presque de l'univers qu'elle portait entièrement en elle. Et donc, effectivement, c'est un personnage intéressant qui est parmi les plus récentes de nos grandes aventurières.
Alors, justement, merci de me rappeler à l'ordre, Christelle Mouchard, puisque nous allons parler des autres, celles qui lui avaient ouvert la voie, ses devancières. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont rien à lui envier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les grandes aventurières sont à l'honneur cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez l'éditrice et écrivain Christelle Mouchard qui présente avec Alexandra Lapierre l'ouvrage « Elles ont conquis le monde, les grandes aventurières 1850-1950 » réédité chez Art aux Poches.
Voilà, c'est une réédition de poche. Alors, c'est très passionnant parce que ce que vous racontez est fascinant, mais je ne peux que donner à nos auditeurs le conseil de se procurer l'ouvrage original qui était de 2007 avec une richesse iconographique, des photos incroyables qui permettent surtout non seulement de se faire une idée de la physionomie, de l'allure des aventurières dont vous parlez, mais aussi de l'incroyable hostilité des décors, enfin du milieu qu'elles ont eu à affronter. Hein,
c'est oui, assez... effectivement. Tout à l'heure, vous avez insisté sur ce qu'il y avait d'extraordinaire dans le fait qu'une jeune femme de 30 ans se mette à traverser un désert dans les années 30. Et alors bon, jusqu'il n'y a pas très longtemps, on pensait que Ella Maillard et Alexandra Dabinel étaient les premières.
C'est ça, bien sûr, on cite toujours ces deux-là.
Mais en fait, moi j'en ai trouvé très... Enfin, les femmes ont toujours voyagé,
oui.
C'est un fait. Mais on peut dire...
Vous parlez même de curiosité avant 1850.
Voilà, en fait. Parce qu'il y a eu quand même une date qui est un peu considérée comme une date clé aux alentours des années 1850, qu'on peut... il faut étudier le mot « aventurière ». Parce que, effectivement, avant cette date, le mot, vous le savez, avait un sens différent.
Très péjoratif, oui,
très péjoratif. Une aventurière, c'était quand même quelqu'un de pas très recommandable, votre fortune. Souvent, c'était une courtisane, une espionne, les deux à la fois, etc. Puis un jour est arrivée une femme qui a voulu être une aventurière, mais pas une aventurière dans ce sens-là. Celle-là, Ida Pfeiffer, c'est, à mon avis, la plus grande aventurière de tous les temps. À cause de la date. Nous sommes en 1845. Alors, il faut l'imaginer, ça n'est pas une séductrice. Hein. Elle porte un petit bonnet en dentelle, elle a un corset, un col émonté, de grandes
jupes. Oui, la photo n'est pas très avantageuse, là, disons-le. Hein.
Non, c'est une petite bourgeoise viennoise. Oui. Jusque-là, elle a eu une vie tout à fait normale. Elle s'est mariée, on l'a mariée, plus exactement. Elle a eu des enfants, elle a élevé ses enfants, et tout ça. Mais en fait, elle avait un rêve secret. Et une fois que ses enfants ont été mariés, elle leur a dit qu'elle allait rendre visite à des amis qui étaient installés à Constantinople. Alors, bon, ses fils se sont récriés en disant « Mais tu es folle à ton âge, avec ta petite trente, ta santé, etc. » Elle n'a rien dit, elle n'est partie. Et en fait, elle ne s'est plus jamais arrêtée. Elle a fait deux fois le tour du monde et elle a recommencé. Elle a traversé Bornéo à pied, elle a pénétré à Sumatra dans des zones inexplorées à la rencontre des coupeurs de tête. Elle s'est enfoncée dans les forêts du Brésil. C'est absolument, à cette époque, hein, 1845, c'est absolument extraordinaire.
C'est complètement fou même.
Voilà, et il faut imaginer qu'elle était habillée comme je vous l'ai décrit.
C'est ça, oui. Hein, elle ne s'était pas adaptée. Hein.
Pas du tout, pas du tout. Non seulement elle ne s'était pas adaptée, mais ce costume était extrêmement important. Hein. Ça, c'est un point essentiel, parce qu'elle n'était pas la seule. Très rapidement, d'autres ont pris la suite, qui, elles aussi, ne voulaient pas être des aventurières au sens sulfureux du terme, mais des aventurières au sens le plus noble. Elles ont donné, elles, un sens noble à ce mot. Et le moyen d'y arriver, c'était le costume. Ce costume était un étendard. Et c'est pas par hasard que dans leurs récits, elles insistent particulièrement sur le corset, la jupe, le bonnet. Pour vous raconter une anecdote, Ida Pfeiffer se trouve à Bornéo. Ça fait donc plusieurs jours qu'elle marche. Elle a été obligée d'enlever ses chaussures parce que ça ne tient plus. Mmh. Il y a de la boue. Et là, pour la première fois de sa vie, elle a été obligée de mettre un pantalon. Elle a remonté sa jupe autour de la taille, hein, qu'elle a nouée pour pouvoir marcher dans la boue. À l'horizon se profile dans la forêt un village de coupeurs de têtes. Bon, vous savez comment, vous imaginez comment vivaient les Dayaks à Bornéo. Bon, c'est des gens qui ne sont pas très habillés, ils n'ont pas besoin de l'être. Mais alors que fait Ida Pfeiffer ? Est-ce qu'elle commence à se réfléchir au discours qu'elle va leur tenir, etc. ? Non, pas du tout. Elle dénoue sa jupe parce qu'elle ne veut pas entrer chez les Dayaks en pantalon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi elle fait ça ? Surtout, pourquoi elle le dit ? Elle le dit parce qu'elle veut que ses lecteurs sachent qu'elle est une femme comme il faut. Madame Pfeiffer est restée Madame Pfeiffer, même
à Bornéo, dans les pires circonstances.
Voilà, c'est ça. Et toutes les aventurières de cette époque-là insistent pareillement sur le costume. Je vais raconter une autre anecdote, c'est Isabella Bird. Donc une Anglaise qui dont l'aventure la plus intéressante se déroule dans les Rocheuses en plein hiver. Elle a traversé les Rocheuses toute seule avec une petite jument. Et bon, comme elle est restée à cheval plusieurs mois d'affilée, il a bien fallu qu'elle se mette à califourchon parce que bon, la monte en Amazone est extrêmement à la fois inconfortable et dangereuse, contrairement à ce qu'on entend parfois. Mmh. Donc les femmes qui étaient conduites à chevaucher pendant plusieurs semaines, mois d'affilée, voilà. Donc, mais elle n'était pas en pantalon. Elle s'était fait faire une jupe culotte. Elle appelait ça un bloomer, spécialement pour garder la forme de la jupe par-dessus la selle. Quand elle rentre en Angleterre, son aventure a quelques succès. Elle l'écrit fort bien d'ailleurs et elle a des lecteurs. Et il se trouve qu'un journaliste fait un commentaire et essayant de la décrire, la décrit en pantalon. Et Miss Bird s'est rendue auprès de son éditeur et a sommé son éditeur de provoquer en duel le journaliste qui avait commis cette injure de la croire capable de porter un pantalon.
Elles avaient l'esprit totalement aventurier, mais elles ne transigeaient pas sur un certain nombre de principes et de valeurs.
Voilà, fait, hein, mais c'était à dessein, c'était pour se faire reconnaître en tant qu'exploratrice. C'était très important pour elle.
Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète, Christelle Mouchard ? Est-ce que vous-même, vous faites du trekking ou des choses, des aventures étonnantes ? Parce que vous vous spécialisez hein, dans ces femmes extraordinaires.
Alors, je ne suis pas une aventurière, surtout quand je me compare à Ida Pfeiffer ou à la Maillard. C'est vraiment, c'est pas possible. Mais j'ai fait l'expérience dans ma vie, quelques occasions du voyage en solitaire, et ça m'a donné effectivement, comme beaucoup de femmes maintenant, d'ailleurs de jeunes femmes que je rencontre très souvent d'aventurières d'aujourd'hui, de comprendre quelles étaient la mentalité, comprendre pourquoi elles tenaient à leur féminité, et pourquoi aussi, ça c'est un autre trait commun de beaucoup d'aventurières du 19e siècle, pourquoi elles minimisaient leurs aventures. Ça paraît assez incroyable.
Oui. Et pourquoi ?
En fait, il leur arrivait les mêmes aventures, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés
autres, oui.
que voyageurs, hommes. Mais elles n'avaient pas le droit de le dire. Parce que si elles l'avaient dit avec la même emphase que s'exprimait un Stanley, etc., oui. Inévitablement, elles se seraient attirées la remarque, il ne fallait pas y aller. Une femme, ça ne voyage pas. Une femme qui voyage, forcément...
Donc on prend sur soi et on le garde, en fait.
Voilà, on le garde. Et ça va jusqu'à des extrêmes. Par exemple, il y en a une, May French, qui a traversé une partie de l'Afrique. Et son livre, à vrai dire, est un peu ennuyeux parce que tout se passe bien.
Oui. Donc, alors que ce n'était pas la vérité, bien entendu.
Voilà, c'est ça. Alors, après, on s'est aperçu qu'en fait, elle s'était cassé le dos, mais elle ne l'avait pas dit parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle avait souffert le martyr pendant la moitié de son expédition.
Vous aviez écrit il y a 3 ou 4 ans un Donia Isabelle ou la véridique et très mystérieuse histoire d'une créole perdue dans la forêt des Amazones. Et là, je sais que vous travaillez sur le personnage très célèbre déjà de Gertrude Bell. Vous découvrez des choses inédites sur
oui,
Bell.
Oui, c'est véritablement. Alors Gertrude Bell, pour moi, on va dire que c'est la plus flamboyante.
On entre dans la politique pour le coup. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les femmes aventurières, agents d'influence, de renseignement, etc. On est dans une région qui est très exactement celle aujourd'hui de l'État islamique. Hein, c'est, elle a voyagé précisément dans ces régions-là. On devrait dire, en parlant d'elle, Belle de Bagdad, comme on disait Laurence d'Arabie, puisqu'elle a eu exactement le même rôle que Laurence d'Arabie dans la partie mésopotamienne du Moyen-Orient. Et pour vous donner une idée, elle était la seule femme qui est présente aux conférences de la paix en 1919. Et à la conférence du Caire, il existe une photo où on voit Churchill sur un chameau, on voit Laurence d'Arabie et à côté Gertrude Bell. Donc c'est vraiment une femme qui était à la fois une grande aventurière et une grande diplomate. Donc c'était vraiment... Et en plus, ce qui est extraordinaire...
À un moment où les questions du Proche-Orient étaient aussi brûlantes qu'aujourd'hui et déterminaient autant la politique mondiale, il faut le dire.
Tout à fait. On était à une période où l'Empire ottoman était en pleine déliquescence. Personne n'osait y toucher parce qu'on savait que dès celui qui le toucherait ferait tout s'écrouler et on ne savait pas en faveur de qui. Donc les empires se regardaient autour de ce qui était un peu cristallisé. Et Gertrude Bell avait prévu que ça tournerait au chaos dès qu'on y toucherait, en fait.
Alors, un mot seulement de deux contemporaines de notre Ella Maillard d'aujourd'hui, qui se sont confrontées aux deux grands éléments de l'aventure, l'une au désert et l'autre à la mer. Alors, les déserts d'abord, c'est Odette de Puy-Godeau.
Alors, Odette de Puy-Godeau, qui est bien oubliée, malheureusement. Toutes les deux, d'ailleurs, Odette de Puy-Godeau. Alors, elle voyageait, elle n'était pas seule. Elle voyageait avec son amie. Donc, c'est un cas d'aventure de femme. Mm-hmm. Et leur histoire est assez émouvante, parce que c'était une véritable histoire d'amour, là, pour le coup, entre ces deux femmes. Et elles sont devenues des spécialistes de la Mauritanie. Elles ont pris sur elles, pareil, dans les années 30, de partir. Elles ont, dans des régions où les femmes
totalement
sont...
inhospitalière et inhabituelle pour des femmes.
Très inhabituelle pour des femmes. Elles ont beaucoup souffert, mais elles sont arrivées à Tombouctou. Elles ont fait exactement et elles ont gardé cette spécialité.
Sur les traces de René Caillé.
Voilà, exactement. Elles ont fait exactement l'itinéraire.
Et ouais. Anita Conti.
Alors Anita Conti, qui est plus récente, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, était alors elle c'est une oubliée, une discrète. En fait, on ne la connaîtrait pas si un jeune photographe, Laurent Giraud, ne l'avait pas découverte un peu de temps avant sa mort. C'était une amoureuse de la mer. Alors non pas une navigatrice, c'est un cas unique. Moi, je n'en connais pas d'autres de bateaux stoppeuse à vocation maritime, mais spécialisée dans la pêche. C'était une amoureuse de la pêche. Non pas qu'elle était pêcheuse, entre guillemets, elle-même, mais elle était passionnée par les techniques de pêche et par le monde des pêcheurs. Et elle a passé toute sa vie à bourlinguer de bateau de pêche en bateau de pêche, en accumulant une documentation à la fois technique qui a fait qu'elle est devenue une océanographe amateur, autodidacte, reconnue par l'État, puisqu'elle a été la première femme autorisée à monter sur les bateaux de ce qui allait devenir l'Ifremer dans les années 30. En 40, elle a été aussi la seule femme admise à bord d'un bateau dans une expédition de déminage. Donc elle a eu une vie très discrète, mais absolument étonnante d'observation du milieu maritime.
Et il y en a encore bien d'autres de ces grandes aventurières qui, du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, ont conquis le monde. Elles ont conquis le monde. C'est le titre de votre ouvrage, Christelle Mouchard, avec Alexandra Lapierre, que nous saluons très amicalement. Voilà une émission qui nous a fait découvrir des femmes extraordinaires. C'est d'ailleurs une femme qui a signé le récit d'aujourd'hui sur cette incroyable Ella Maillard. Elle s'appelle Marion Sauveur. Nous la saluons, bien entendu.
Cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Raphaël qui, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, vous demande quelle est l'origine des jeux romains, les courses de chars ou les combats de gladiateurs.
Eh bien, si nous avons retenu, pour tout vous dire, la question de Raphaël aujourd'hui, c'est que très bientôt, là, ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 mai, va se tenir la 6e édition des grands jeux romains qui se tiennent dans les arènes de Nîmes, dans le Gard. Fabuleuses arènes de Nîmes. Il s'agit d'une reconstitution, évidemment, de courses de chars, de combats de gladiateurs, avec quand même quelques 500 reconstituteurs en costume, vous imaginez ça. C'est la 6e édition, je vous l'ai dit. Et cette année, la grande figure tutélaire sera celle du général Hannibal, m'est avis qu'on devrait en profiter pour montrer quelques éléphants dans cette affaire. Alors, D'où viennent-ils ces jeux antiques? Ils viennent tout simplement de la plus grande, de la plus haute antiquité. Alors les jeux romains tels quels, ils sont directement héritiers des anciens jeux étrusques. Et dans l'histoire de Rome, ils interviennent très tôt puisqu'on dit que Romulus les aurait institués pour attirer à Rome les fameuses Sabines. Vous savez, il fallait qu'il procure des épouses à ses compagnons. Alors on va les enlever les Sabines, mais pour les attirer, on aurait créé les premiers jeux. On est dans la légende là, bien entendu. La vérité, c'est que ces jeux, ils sont héritiers de traditions très anciennes, orientales et grecques, qui constituaient à offrir des réjouissances en l'honneur de personnes décédées. Et on appelait ça les ludi funèbres, hein, les jeux funèbres, si vous voulez, qui avaient lieu pour glorifier, soit au moment de la mort, soit à des anniversaires, à des dates fixes, les grandes figures du passé, les grandes figures décédées. Souvent, c'était des jeux qui étaient financés par des particuliers, par de très riches citoyens, bien entendu. Et puis petit à petit, avec l'Empire, et alors plus on va avancer dans le temps, et plus ce seront des jeux qui seront financés par des instances publiques et par l'État, bien entendu. Vous savez ce qu'on dira sur le pain et les jeux, panem et circenses, hein, c'était le moyen d'endormir le peuple, en quelque sorte. Alors ces jeux, ce sont essentiellement les courses de chars, bien entendu, les plus anciens de ces jeux. Le Circus Maximus trouve ses origines dès le 6e siècle avant notre ère, on est du temps de Tarquin l'Ancien, le grand cirque qui sera constamment modernisé, bien entendu. Ces courses de chars sont très populaire, ne serait-ce que parce qu'elle donne lieu à des paris. Et puis, à partir de 264 avant notre ère, aux funérailles de Junius Brutus, la naissance des combats de gladiateurs qui ne ont fait que se perfectionner, se raffiner, si j'ose ce terme, au fil du temps pour culminer sous l'Empire. Évidemment, c'est le christianisme qui va mettre un terme à tout ça, et c'est l'empereur Constantin qui met fin au jeu.